voilà un sujet intéressant. Pourquoi tu ne viendrais pas en parler au grand débat à déjeuner aujourd'hui?
Moi, ça fait très longtemps que je ne crois plus aux promesses bidons de l'État et de tous ces politiciens. Non, moi, je préfère les copines et le système D.
Ce serait extrêmement présomptueux qu'aujourd'hui, je vous indique quelle va être la sortie du débat.
Vous inquiétez pas, il y aura une sortie du grand débat, c'est vrai, très grandes attentes, et donc très grande responsabilité pour le gouvernement, pour la majorité, pour tout le monde.
Il y aura forcément certaines personnes qui n'y trouveront pas leur compte, parce que c'est aussi là encore la loi de la majorité, hein, on est dans une démocratie. Et puis au-delà de ça, de toute façon, vous savez, on n'a pas de baguette magique.
On n'a pas encore tout analysé, l'analyse est en cours, et donc on aura mi-avril la restitution, et en même temps que la restitution, juste après la restitution, des décisions.
Tout ça va continuer, et maintenant les prochains jours comme les prochaines semaines ne doivent absolument pas donner lieu à des décisions hâtives. Il faut aller véritablement au bout de ce processus. Il y a des choses qui peuvent être faites par le gouvernement lui-même, il y a des textes de loi qui peuvent en découler, il peut y avoir des décisions référendaires. Tout est sur la table parce que nous sommes dans le débat.
Dernière ligne droite donc pour le grand débat national voulu et organisé par le gouvernement sous la houlette du président de la République qu'on entendait dans ce petit montage sonore réalisé par notre réalisateur Jean-Christophe Francis. Ce grand débat d'ailleurs qui dure depuis 2 mois et ce président de la République qui a d'ores et déjà annoncé que lui poursuivrait son tour de France pendant encore 1 mois. Alors après 2 mois de consultations et quelques 8000 réunions, quel bilan tirer de cette expérience inédite? Que va-t-il se passer maintenant? Que vont devenir les centaines de milliers de contributions en ligne, les comptes rendus de réunion, les cahiers de doléances? Qui va analyser la masse de données accumulées? Invité de la deuxième heure, un des 5 membres du collège des garants du grand débat national avec Nadia Bellaoui, Guy Canivet, Isabelle Falque-Perrotin et Pascal Perrineau. Jean-Paul Bailly est avec nous. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et bienvenue. Alors les débats s'arrêteront le 15 mars, c'est-à-dire vendredi prochain, mais on l'entendait là dans ce petit son, le président de la République a déjà dit que tout ça va continuer. Alors quelles sont les prochaines étapes ?
Juste avant peut-être de parler des prochaines étapes, il faut quand même rappeler en vraiment une minute l'incroyable complexité et ampleur du grand débat.
Vous allez réussir à le faire en une minute ?
Oui, oui, je vais réussir à le faire en une minute.
Allez, on vous écoute, on vous suit.
Il y a le site sur lequel il y a eu 350 000 contributions. Il y a les réunions d'initiatives locales, où il y en a à peu près 10 000. Il y a les cahiers citoyens, 16 000, qui est un nombre énorme par rapport à ce qu'on pouvait attendre. Il y a les contributions personnelles, plus de 8 000. Il y a les contributions qui commencent à arriver des associations. Et puis, il va y avoir des étapes tout à fait inédites et importantes à partir de lundi prochain, que sont les conférences nationales thématiques et les conférences citoyennes régionales. Alors, sur ces étapes à venir, qui sont au fond ce qui vous intéresse le plus, il y a donc ces 2 cycles de conférences. D'abord, lundi et mercredi, il va y avoir 2 fois 2 conférences nationales thématiques sur chacun des 4 thèmes. Qui va y participer ? Eh bien, vont y participer l'ensemble des corps constitués, des corps intermédiaires, c'est-à-dire à la fois les syndicats, les associations et les associations d'élus. Donc il faut dire que jusqu'à présent, ils n'étaient pas directement impliqués dans ce grand débat.
Il était question aussi, Jean-Paul Bailly, de conférences citoyennes régionales.
Absolument. Donc
Elles
vont aussi avoir lieu, juste après.
Juste après.
Les premières ont lieu le 15 et 16 mars et les suivantes auront lieu le week-end d'après. Et ces conférences régionales citoyennes sont peut-être un des moments les plus intéressants et les plus spécifiques de ce grand débat.
Pour quelle raison ?
En ce sens que, d'abord, ceux qui vont y participer, il va y en avoir 19. Hein, 13 dans les régions, 5 outre-mer et une spécifique pour les jeunes. Et donc, elles sont particulièrement innovantes et intéressantes parce que elles vont être... Se tenir à partir de citoyens tirés au sort. Et de manière très délibérative, en demandant pendant 1 jour et demi à ces citoyens tirés au sort de manière participative, avec des débats par petites tables, puis en confrontant leurs différents points de vue, de se mettre d'accord sur un certain nombre de thématiques qui leur paraissent les thématiques prioritaires. Et donc, c'est intéressant parce que le grand débat, je l'ai dit, était d'une très grande ampleur.
Expérience inédite.
C'est une expérience inédite et elle a Elle est inédite aussi par... Alors, il y a déjà des pays ou des endroits où il y a eu des choses qui ressemblent à ça. Mais en France, elle est totalement inédite. Et elle a une caractéristique, à mon avis, particulièrement intéressante. C'est que, comme j'ai dit, il va y en avoir 19. Les 19 vont travailler sur le même sujet. Et ça va être très intéressant de voir comment des citoyens tirés au sort, travaillant sur le même sujet, vont conclure des choses qui seront cohérentes ou très différentes. Et donc je pense que ça prendra une force toute particulière. C'est d'ailleurs vrai généralement du grand débat, c'est que cette diversité à la fois des sources, diversité des traitements, diversité des initiatives parallèles vont faire que la sortie du grand débat ne sera pas, il faut surtout pas s'attendre à quelque chose de quantifié et le top 10 de ce que souhaitent les Français. Il faut s'attendre à des contributions extrêmement diversifiées par type de canaux. C'est-à-dire que on n'agrégera pas ce que on dit les cahiers
citoyens. Pas une seule synthèse, vous voulez
pas
dire.
Pas une seule synthèse. On n'agrégera pas. Et, intéressant également, il n'y aura pas qu'une seule, il n'y aura pas que les équipes du gouvernement et en particulier leurs prestataires qui feront les analyses derrière. Il y a beaucoup de gens, notamment le monde universitaire, le monde de la recherche, qui participeront aussi à ces recherches. Ça, donc on aura une diversité tout à fait intéressante.
Ça, c'est une volonté de la part des garants, dont vous êtes, encore une fois, hein, Jean-Paul Bailly,
en tout cas,
ou c'est une volonté du gouvernement?
Mais je dirais que le gouvernement avait déjà pris les contacts avec les centres de recherche, etc. Mais nous, on a particulièrement insisté sur cette diversité et sur le fait que l'ensemble de la restitution et du traitement soit à la fois exhaustif, ça c'est très important, c'est-à-dire que rien ne sera perdu. Tout sera numérisé, tout sera mis en ligne et par des systèmes de recherche et de cartographie, chacun pourra, une fois que toutes les données auront été anonymisées, ce qui est très important, chacun pourra, par recherche successive, aller jusqu'à son propre texte, son propre verbatim. Donc, une exhaustivité complète, une transparence complète, puisqu'on peut aller jusqu'au verbatim. Le principe que j'évoquais à l'instant de non-écrasement, c'est-à-dire qu'on gardera les synthèses spécifiques à chacune des sources et à chacun des acteurs qui vont faire ces analyses. Et puis, dernier point, je le redis, c'est la pluralité des analyses et des débats qui fait que on n'aura pas, c'est pas une seule méthode. Vous savez, moi je regarde, on regarde beaucoup. On n'est pas des experts dans ce domaine-là, notamment dans les big data ou dans l'intelligence artificielle. Donc il y a beaucoup de batailles d'experts. Mais moi, ce que je vois, ce qu'on a conclu, c'est qu'il n'y a pas une méthode. Et que, justement, il ne faut pas se fier à une seule méthode. Il faut essayer d'avoir une diversité de méthodes. C'est ce qui garantit la meilleure fiabilité au bout du compte.
On arrive donc, Jean-Paul Bailly, au bout du processus. Si on prend un peu de champ sur ce qui s'est passé depuis deux mois et sur votre mission titanesque à accomplir en quelques semaines, vous aviez, dans vos missions, parmi les cinq garants que vous êtes, de garantir l'indépendance du dispositif, d'être attentif à la régularité de la méthode, d'émettre des recommandations pour satisfaire aux exigences de transparence et d'impartialité. Est-ce que vous diriez au quasi-terme du processus que votre mission est accomplie ?
Oui, je pense qu'on peut dire que notre mission est accomplie, que par définition on est indépendant et que je pense que...
Vous dites par définition, mais vous avez tous été nommés soit par l'exécutif, soit par les présidents des commissions, vous en l'occurrence par le Premier ministre.
Oui.
Est-ce qu'on peut être indépendant tout en ayant été nommé par l'exécutif une organisation qui plus est a été voulue et qui a été organisée par l'exécutif?
Oui, mais je ne crois vraiment pas, alors là, vraiment pas, que l'indépendance soit fonction de la manière dont on est nommé. D'ailleurs, les présidents d'autres grandes entités indépendantes sont aussi nommés. Hein. Donc, je pense que l'indépendance est quelque chose qui se vit, dont on est convaincu, qui se démontre tous les jours. Et donc, c'est pas du tout fonction, me semble-t-il. En tout cas, nous, on l'a vécu comme ça. Et je pense qu'aucun d'entre nous n'aurait accepté cette responsabilité s'il n'avait pas la conviction lui-même d'être indépendant. Et de fait, nous n'avons non seulement reçu aucune pression, il n'y a qu'une seule pression, c'est la pression du temps, ça c'est sûr. Mais sinon, nous n'avons reçu évidemment aucune pression et toutes les recommandations que nous avons pu faire ont été suivies des faits. Donc dans l'ensemble, oui, je dirais que aujourd'hui, malgré ici ou là des insatisfactions, par exemple, c'est vrai que on avait une insatisfaction sur la nature du site lui-même, qui n'est pas particulièrement convivial, qui n'est pas délibératif, qui a un certain nombre de de défauts, on va dire, au-delà de ses qualités, puisque quand même, il y a 350 000 personnes qui y ont travaillé et qui ont fait donner à peu près 1 400 000 contributions.
Donc, en regardant votre travail à vous, vous diriez que l'opération est plutôt réussie. En regardant ce qui s'est passé, ce que vous avez vu, puisque vous étiez des observateurs hein, de ce bon déroulement du grand débat national, Jean-Paul Bailly, en regardant les choses que vous avez vues, entendues, les impressions que vous avez recueillies, est-ce que vous diriez que ce grand débat national est quelque chose qui s'est plutôt bien passé? Je vous pose cette question parce que les retours sont assez contradictoires. Certains sont extrêmement satisfaits d'avoir pu discuter, d'avoir pu s'exprimer. D'autres, et même d'ailleurs au sein de l'opposition politique, ont parlé d'un débat truqué, ont dénoncé une mascarade, sa transformation en campagne de communication. Chantal Jouanneau, elle-même présidente de la Commission nationale du débat public et qui devait en assurer l'impartialité et la neutralité avant vous, a dit que c'était une campagne de communication. Certains ont dit que le président en profitait pour lancer sa campagne des européennes et certains même qui ont participé à beaucoup de débats dans des organisés par des mairies, dans des communes, ont regretté que le président s'invite dans des débats et fasse des monologues. Voilà, comment avez-vous regardé, vous, ça, tout ça, avec la distance qui était la vôtre?
Écoutez, nous, je pense que par rapport à l'ensemble de ces points-là, vous évoquez beaucoup les débats eux-mêmes, hein, qui sont une partie de l'ensemble du grand débat, comme j'ai vu tout à l'heure. Ces débats, on a beaucoup suivi la manière dont ils s'étaient passés, on a participé à beaucoup d'entre eux, hein, à nous
pas
cinq.
Pas tous, parce que des milliers de débats organisés, c'était
cinq,
que cinq.
À nous cinq, on y avait participé à une cinquantaine répartis géographiquement sur l'ensemble du territoire. De ce qu'on a vu nous-mêmes et des retours qu'on peut avoir, c'est que dans l'immense majorité, il y a de la part des Français une vraie volonté de participer, de débattre. Et je pense que cette volonté, elle est particulièrement remarquable. Et elle a pour effet que, probablement, c'était dit dans les quelques interviews de départ, les choses ne vont pas s'arrêter comme ça. Il y a une vraie demande de voir comment, au-delà de ce grand débat qui va s'achever, comment les choses se poursuivent. Non seulement comment les choses se poursuivent dans les décisions qui seront prises à court terme et à plus moyen ou long terme par le gouvernement, mais aussi comment cette dynamique de participation démocratique gardera une vraie existence et dans la vie démocratique française.
Est-ce que les gens vous ont demandé ce qui allait être fait de leur parole? Est-ce que vous avez senti une attente forte de ce point de vue-là? Sur le site d'ailleurs, les garants disent qu'on peut les contacter. Est-ce que vous avez reçu des mails, des coups de fil?
Oui, on a reçu pas mal de mails, de coups de fil, etc. C'est très divers, hein. Peut-être on a reçu en tout peut-être un millier, hein. Quelques protestations sur des points aussi. Beaucoup de demandes techniques. Beaucoup de demandes sur notre propre rôle. En tout cas, on sent que c'est très vivant et que les gens ont envie de participer.
Et mardi, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a dit que le risque déceptif était important. Il faut préparer, a ajouté Édouard Philippe, nos concitoyens à ce que les propositions à la sortie ne soient pas les réponses à toutes les remontées des débats. Comment, Jean-Paul Bailly, selon vous, clore ce grand débat national sans décevoir les Français et cette attente dont vous parlez?
Oui, alors d'abord c'est vrai que il y a eu un tel engouement qu'il y a forcément une très grande attente et que ce qui crée une grande exigence. Il y a quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ça n'est pas un grand sondage, hein, et que les résultats ne peuvent pas prendre la forme de une hiérarchie quantifiée des 10 préférences des Français. Ça sera forcément quelque chose qui sera plus complexe, plus diversifié, qui prendra sans doute une forme où s'articuleront des thèmes, des sous-thèmes, des enjeux, des propositions, où on mettra en place des cartographies qui permettront, par les techniques de rapprochement des différents mots, etc., de naviguer et de, un, comprendre la complexité, et deux, trouver des réponses pertinentes à un certain nombre de questions. Mais c'est vrai que face à cette
Après, il faut prendre des décisions par rapport à ça.
Décisions, ça, jusque notre rôle, on va dire, notre rôle s'arrête
vous
là.
Vous arrêtez, ah bah vous en sortez bien, c'est facile. Alors, la fin du grand débat était initialement prévue le 15 mars. Il se trouve que le président a annoncé que lui voulait jouer les prolongations et qu'il poursuivrait ses rencontres avec les citoyens et les élus au moins jusqu'à la fin du mois. Donc, on verra. Et d'ailleurs, une réunion est décidée demain aussi à Matignon avec plusieurs ministres pour commencer à imaginer la suite. Vous avez été invité à cette réunion, Jean-Paul Bailly ?
Non, pas cette réunion-là en particulier, parce que je pense qu'elle a un caractère éminemment politique. Nous, on est quand même globalement sur le processus et pas sur le fond. On a fait des recommandations et sur le calendrier que vous évoquez, il y a donc les 19 réunions citoyennes qui vont durer jusqu'au week-end du 23-24. Et d'après ce que j'ai compris, dans les étapes qui conduiront au processus de décision, il devrait y avoir un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat dans les premiers jours d'avril.
Merci Natacha Triou. Bravo, vous dit Jean-Paul Bailly. C'est quelque chose de très intéressant pour vous d'ailleurs, Jean-Paul Bailly, parce que je rappelle que vous êtes membre du Collège des garants du Grand Débat National. Mais si vous avez été nommé à ce poste avec vos camarades, vos collègues, vous êtes cinq en tout, c'est sans doute parce que vous avez très souvent été présenté vous-même comme un démineur des questions sociales. Vous avez été le patron de la RATP, puis de la Poste pendant, disons, près de 20 ans réunis. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à Emmanuel Macron pour sortir de la crise des Gilets jaunes qui a toujours lieu et depuis 4 mois maintenant? Il a d'ailleurs préfacé votre livre en 2016, Réformé par le dialogue et la confiance. Est-ce que vous êtes sûr qu'il vous a bien lu?
Écoutez, ça je ne sais pas.
Avant d'écrire sa préface.
Non, ce qui est sûr, c'est que j'ai effectivement consacré ma vie à transformer et à rendre contemporaines ces deux très grandes entreprises publiques. Et le constat que j'ai fait, c'est que pour y parvenir, il faut évidemment essayer de créer un climat de confiance et que le climat de confiance ne se crée que par le dialogue.
Et l'écoute.
Et l'écoute.
Ce que vous avez fait, vous, en particulier avec les postiers en région, les maires ruraux.
Voilà, c'est ce qu'on a fait avec
les collectivités territoriales.
Les collectivités territoriales. Et donc, on avait une tradition d'écoute en allant beaucoup sur place, presque toutes les semaines, rencontrer des postiers, bien sûr, mais rencontrer des élus et aussi des clients, parce que la Poste a des clients, et avoir un dialogue très ouvert sur les enjeux de chacun. Et ce que souvent constaté, c'est que il y a un contresens un peu en France sur le mot dialogue. On a toujours le mot dialogue à la bouche, mais pour beaucoup, le dialogue, c'est la capacité de convaincre, de convaincre l'autre que c'est moi qui ai raison. Moi, l'expérience que j'en ai, c'est que le vrai dialogue qui permet de construire les choses, c'est pas celui-là. C'est un dialogue qui permet de co-construire, c'est-à-dire où chacun arrive avec ses enjeux, ses objectifs, etc., et où on recherche ensemble la solution. Et ça, je crois que c'est très très important comme idée, comme concept, et je crois que tout le monde peut s'inspirer de ce que doit être la vraie nature du dialogue, qui est quand même essentiellement de la co-construction. Et d'une certaine manière, le grand débat est quand même une étape vers plus de co-construction.
À l'époque de la transformation de la Poste, entreprise de service public en société anonyme à capitaux publics, soit aux alentours des années 2010, non seulement Jean-Paul Bailly, vous avez tenu à rencontrer donc les maires, les postiers, les clients de la Poste, mais vous avez pris en considération la parole des syndicats que vous avez reconnus comme des interlocuteurs à part entière. Est-ce que vous comprenez l'attitude aujourd'hui d'Emmanuel Macron et du gouvernement qui a plutôt tendance à exclure ces corps intermédiaires? Est-ce que c'est là encore une bonne façon de procéder?
Écoutez, c'est difficile de répondre à cette question, mais en tout cas, moi j'ai toujours essayé d'avoir effectivement cette qualité de dialogue avec les différentes organisations syndicales, mais pas que. C'est-à-dire que le dialogue pour moi est quelque chose qui était beaucoup plus large. C'est-à-dire un dialogue avec l'encadrement de l'entreprise, qui est absolument essentiel, parce que si vous n'avez pas un encadrement qui est aligné sur le projet, vous ne pouvez pas transformer une entreprise. Le dialogue avec les salariés, rencontrer souvent, et on apprend beaucoup en allant sur le terrain, le dialogue avec les organisations syndicales, bien sûr aussi, mais aussi le dialogue essentiel avec tous les élus locaux. Et c'est la globalité de ce dialogue qui crée la confiance.
Jean-Paul Bailly, malgré tout, cette transformation de l'entreprise Poste ne s'est pas faite dans la facilité, bien évidemment. Fermeture de très nombreux bureaux de Poste en milieu rural, près de 80 000 emplois perdus. Je crois que vous avez aussi, en 10 ans, je crois que vous avez aussi fait face à des drames de suicides dans l'entreprise. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de conflit ouvert majeur. Il y avait... cette semaine, sur France 3, il me semble, deux documentaires qui ont été diffusés sur La Poste, deux documentaires où on parle de la productivité, de la diversification des tâches, de la disparition du courrier, de la réduction des effectifs, de l'ouverture de points relais dans des supermarchés qu'on connaît pas seulement dans les petites communes de France, qu'on connaît aussi dans les grandes villes et à Paris, ou dans des petits commerces. Et c'est autant de choses qu'on entend beaucoup depuis 4 mois, venues de ce mouvement des Gilets jaunes, qu'on entend aussi beaucoup dans les débats qui ont été organisés dans le cadre du grand débat national par les maires dans les communes de France. Est-ce que vous diriez que cette situation de la Poste aujourd'hui, qui n'a pas l'air très pérenne, très satisfaisante malgré tout, est quelque chose qui était évitable, ou est-ce que c'est la poursuite logique de ce que finalement vous aviez entamé en 2010 ?
Bon, d'abord, j'ai quitté La Poste il y a plus de 5 ans, donc...
2013, je le rappelle.
Je veux pas m'avancer sur ce terrain. Simplement, ce que l'on peut dire, c'est que La Poste était dans une situation, et toujours, dans une situation extrêmement redoutable, en ce sens que son métier principal est en train de disparaître.
C'est-à-dire le courrier.
Le courrier.
Moins de courrier, moins de volume. On envoie moins de courrier, pour le dire clairement.
Le courrier diminue, je pense, aujourd'hui, de l'ordre de 5 à 7% par an. Donc, vous imaginez l'impact que ça a sur une entreprise. Et une entreprise ne peut pas ne pas se réorganiser en permanence quand elle fait face à la diminution aussi intensive de son activité principale. Donc, je pense que pour faire en sorte que La Poste d'abord continue à être La Poste et continue à apporter le service qu'attendent les Français et qu'elle puisse se développer, innover, etc., besoin d'évoluer. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'alternative à cette nécessaire adaptation, et qu'au contraire, ne pas s'adapter aurait été extrêmement périlleux pour l'entreprise elle-même et sa pérennité. Donc je pense qu'il n'y a pas d'alternative à cette adaptation à un environnement qui est ce qu'il est. Sur l'autre point que je crois le plus important, qui est plus en lien finalement avec les débats actuels sur la présence des services publics, etc.
Oui, même dégradation, ce qui remonte beaucoup, c'est la dégradation des services publics dont se plaignent les usagers.
Enfin, je ne sais pas comment c'est, mais aujourd'hui, la présence postale a changé de nature, mais le service est resté bien réparti sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que la poste avait 17 000 points de présence. Elle a toujours 17 000 points de présence.
Ah, moi, j'ai lu qu'entre 2005 et 2018, on était passé de 14 000 bureaux de poste à 9 000.
Des bureaux de poste, oui. Mais pas des points de présence. C'est-à-dire que l'activité postale n'a pas disparu. Au contraire, elle est restée.
Donc, quand c'est au Franprix, c'est un point de présence, c'est ça que vous voulez dire.
Mais on y trouve en gros 95% des services qu'on trouvait dans un bureau de poste.
Mais est-ce que la qualité du service est la même ?
Je pense que la qualité du service est la même. Mais pour moi, sur un point essentiel, elle est même bien meilleure, qui sont les horaires d'ouverture. Parce que les bureaux de poste dont vous parlez étaient des bureaux de poste qui étaient ouverts parfois quelques heures par semaine. Alors que maintenant, quand ils sont soit dans les mairies, soit
près des supermarchés,
ils sont ouverts 60 ou 70 heures par semaine.
Jean-Paul Bailly, j'ai une dernière question à vous poser juste avant que nous entamions ce dernier quart d'heure des matins du samedi. C'est quel sens pour vous, justement, à ce mot de service public dont on parle beaucoup dans ce grand débat national ?
Écoutez, pour moi, d'abord, il a un sens essentiel, c'est-à-dire que j'y ai consacré ma vie.
C'est bien pour ça que je vous pose la question.
J'ai consacré ma vie et donc je pense que c'est un élément essentiel du lien entre les Français. Plus que dans d'autres pays. C'est un des pays où la notion de service public et les exigences de service public sont les plus puissantes. Et donc voilà, je pense que c'est un lien, c'est un facteur de solidarité. et au bout du compte un facteur de qualité de vie et d'efficacité. Et donc, je pense que vraiment, c'est une des colonnes vertébrales de la société française.
Donc, dans l'équation service public rentabilité, est-ce que la balance doit être égale ou penchée d'un côté plus que de l'autre ?
Je ne suis pas de ceux qui opposent complètement service public et rentabilité. Et en particulier, dans les services publics, ils ont une exigence d'efficacité. Plus que d'autres, d'ailleurs, à mon avis. Parce que c'est de l'argent public. Et donc, je pense que tout le monde devrait se battre pour que les services publics soient efficaces, aussi bien dans la qualité du service rendu que dans l'efficacité économique de chacun de ces services publics.
Alors, l'efficacité sur une antenne de services publics comme France Culture, c'est avant tout de respecter l'horloge, il est 8h46.